7 is for the plunging of gods. 8 is where it all begins again.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Oui, pour arrêter de se faire exploiter, la foule.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, ta radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés. We'll be right back.
et je ne vous embrasse pas. Mais je vous invite au bal des obscurs, des petits voleurs, des veines bleues, des basanés, à Fleury-Mérogis, à la santé et aux baumettes. Ouvrez les prisons, elles nous tuent.
Radio Canus en 2.2 vous présente les bandes continues avec trois titres venant d'une session complètement iconoclaste. On a débuté avec Chris and Carla et Comfort of a Stranger. Et puis...
on a continué avec Odo Rosarius, Equilibrio et Freeze Energy, Four is Forever.
Et pour finir par Je suis un poète de Brigitte Fontaine.
Bravo.
Comment s'était formée cette rue flottante? Quel marin, avec l'aide de quels architectes, l'avait construite dans le haut Atlantique, à la surface de la mer, au-dessus d'un gouffre de 6000 mètres?
Bonsoir.
Bonsoir.
Et on a eu un petit problème
voilà,
technique.
Voilà, on s'entend, hein. C'est bien, oui, oui.
Nous excuser.
Parce que nous sommes nuls en technique, probablement.
Vous êtes quand même sur Radio Canu et vous écoutez le Canu Info du lundi.
Et on commence tout de suite à l'international avec un premier sujet sur le Liban. Et on enchaînera après sur les manifestations et la répression en Guinée suite à la tentative d'Alpha Condé de briguer un troisième mandat.
Ensuite au national, donc on ira du côté des gilets jaunes qui prendre de leurs nouvelles pour ceux et celles qui ont été mutilés. On ira du côté de Paris avec l'expulsion du foyer Barra. Une nouvelle garde à vue pour le biologiste qui enquête sur les effets des lacrymos en manifestation et la réforme de l'assurance chômage.
Et au local, on va s'intéresser à comment Vinci s'enrichit grâce aux aéroports de la région. On va faire aussi un peu le point sur les FAF qui traînent dans nos quartiers. Et on va parler des violences policières à Oulin et aussi de la répression des colleuses anti-féminicides. Et on finira par un petit reportage sur la manifestation en soutien au Kurdistan.
Et tout de suite, on commence avec le Liban.
Alors, le Liban, on vous en avait déjà parlé il y a 15 jours. Depuis le 17 octobre, il y a une mobilisation de masse qui dépasse largement les conflits plutôt habituels au Liban interconfessionnel. Alors, des confessions au Liban, il y en a plein. Il y a les chiites qui sont majoritaires, les sunnites, les maronites, des druzes, des grecs orthodoxes, des protestants, des coptes, etc. Le pays est marqué dans son histoire contemporaine par des conflits interconfessionnels très forts et parfois très violent, sans même parler des instructions et des guerres menées par Israël ou par certaines de ses milices contre les populations civiles, les camps de réfugiés palestiniens, les groupes révolutionnaires comme le FPLP, bien souvent réfugiés au Liban, ou encore le Hezbollah, le parti armé chiite fondamentaliste majoritaire au Liban et actuellement au pouvoir. On y reviendra sur ce parti. Le Liban, un pays donc à l'histoire complexe, où jouent qui plus est de nombreux rapports de domination impérialiste, dont la France n'est pas en reste puisque le Liban était sous mandat français de 1923 à 1943, et que de Gaulle à Chirac, les rapports étaient plus que privilégiés, de Sarkozy à Macron à moindre mesure puisque d'autres puissances sont entrées en jeu, mais tout de même. Depuis le 17 octobre donc, une mobilisation historique contre le régime est en cours, hein, qui est menée d'ailleurs à l'avant-garde par les femmes notamment et des jeunes des quartiers populaires contre ce régime confessionnel, ultra corrompu et de plus en plus inégalitaire. On ne revient pas sur tous les détails de ce qu'on a déjà raconté il y a 15 jours là-dessus. Les manifestants demandent le départ de toute l'actuelle classe politique au pouvoir, la même depuis de trop nombreuses décennies. Plusieurs ministres avaient démissionné dans la deuxième semaine. Mais la semaine dernière, c'est le premier ministre Saad Hariri, hein, homme d'affaires, pour la troisième fois Premier ministre depuis 2009, le fils de Rafik Hariri, lui aussi homme d'affaires et chef de gouvernement des années 90 à 2004, et grand ami de Chirac. Et donc ce Saad Hariri a démissionné après trois semaines de blocage des principales villes du pays, malgré les annonces de mesures compensatoires. Alors quelles étaient ces mesures? Taxation symbolique des banques, super, création d'une agence anticorruption, on y croit à mort, et la baisse de 50% sur les salaires des ministres, des députés et du président de la République. Mais rien n'y a fait. La rue veut plus et beaucoup plus. Mais, car il y a un mais, le président Aoun, actuellement au pouvoir, le président de la République depuis 2016, qui était par ailleurs ancien chef des forces armées libanaises dans les années 80, d'obédience chrétienne maronite, est toujours au pouvoir. Il est allié au Hezbollah, donc ce parti chiite, armé, fondamentaliste, dont vous avez forcément déjà entendu parler, qui est à la tête aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Or, le Hezbollah assume un rôle de première ligne de défense du gouvernement et du régime face aux manifestants, un rôle profondément réactionnaire et contre-révolutionnaire, en attaquant violemment les occupations de place, à coups de bâton, cutter et barre de fer. Les femmes sont d'ailleurs en première ligne, à la fois dans les manifs comme dans les attaques du régime. Les Libanaises sont soumises à d'importantes lois sexistes qui les relèguent à n'être que des citoyennes de seconde zone sous la tutelle d'un père, d'un mari ou d'un frère. Que les femmes osent se rebeller est pour le Hezbollah et pour une partie du régime quelque chose d'insupportable. Malgré tout, et malgré les tentatives de mobiliser les soutiens du président Aoun dans les rues, la contestation ne désemplit pas. Hier encore, en réponse au soutien du régime, des milliers de personnes ont envahi les rues de Beyrouth et de toutes les grandes villes libanaises, scandant « Révolution, le peuple veut la chute du régime » et « Tous veut dire tous ». Alors contrairement à ce que souhaite la France, via Jean-Yves Le Drian, son ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas le retour au calme et à la stabilité qui est souhaitable, mais bien l'amplification de cette mobilisation historique pour que le droit des femmes ne soit plus piétiné, pour la fin du système confessionnel oppressant, contre la corruption, pour l'égalité sociale, bref, pour une transformation profonde du système libanais sans domination impérialiste. Voilà ce qu'il faut souhaiter à ce mouvement, comme à tous ceux en cours à l'échelle internationale.
Et on enchaîne tout de suite avec la Guinée.
Et on a régulièrement parlé dans cette émission de la situation en Guinée et de la manière dont le président en place, Alpha Condé, a modifié la constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat et rester au pouvoir. Alors, plusieurs éléments nouveaux sont apparus depuis le mois dernier. Hein. L'opposition menée par le Front National pour la défense de la constitution s'est mise à occuper la rue au travers de différentes manifestations. Alors, première manifestation assez massive, c'était le 14 octobre dernier. Hein. Une manifestation interdite par le pouvoir et violemment réprimée par les policiers et gendarmes. Bilan, 9 morts et récemment, 5 dirigeants du Front National pour la Défense de la Constitution ont été condamnés à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme pour avoir organisé cette manifestation. Plus récemment, le 24 octobre, une autre manifestation a lieu qui a réuni, d'après les organisateurs, près d'1 million de personnes et qui a été beaucoup plus calme, hein, notamment un calme lié probablement en fait, aux pressions exercées par la CDAO, la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest, sur le pouvoir guinéen, car inquiète de voir la situation dégénérer en une forme de guerre civile. Pourtant, aucune réponse politique de la part du gouvernement et d'Alpha Condé, qui se contente pour le moment d'ignorer les revendications des protestataires et de réprimer le mouvement. Donc j'ai déjà parlé des morts en manifestation et des condamnations d'opposants, mais il y a aussi la censure de la presse critique, l'éviction des opposants dans l'appareil d'État, hein, comme le président de la Cour constitutionnelle il y a quelques mois, et de manière générale, l'étouffement, enfin tous les pouvoirs sont étouffés par l'État. Condé, pourtant, avait été longtemps une figure de l'opposition dite démocratique en Guinée, hein, via son combat contre les deux autocrates qui avaient dirigé le pays pendant plusieurs décennies auparavant, hein, Sékou Touré et Lansana Conté. Il a été longtemps d'ailleurs perçu, Condé, donc, comme le premier président démocratiquement élu du pays. Mais ce qui ne l'a pas empêché de faire donc modifier la constitution à son avantage, comme l'avait fait son geôlier il y a quelques décennies maintenant, Lansana Conté. Et désormais, agrippé au pouvoir, donc, il vient agrandir la liste déjà assez longue des présidents africains qui se muent en dictateurs. Alors il faut dire qu'il peut compter encore sur de sérieux atouts hein, pour se maintenir au pouvoir. La majorité de l'appareil d'État est entre ses mains et celle de son parti. Les médias dominants, comme Jeune Afrique par exemple, le soutiennent. Et bien que les USA se sont opposés à son nouveau mandat, il peut compter sur le soutien indéfectible de la Russie, qui exploite les mines de bauxite du pays, et le soutien tacite du pouvoir français. N'oublions d'ailleurs pas que, comme beaucoup d'élites d'Afrique de l'Ouest, hein, Condé a fait ses études en France et y garde de profondes attaches politiques. Ainsi, la France a toujours été un allié de choix pour les dictateurs guinéens au cours de l'histoire. Aujourd'hui, le premier qui tire profit du régime d'Alpha Condé, c'est Vincent Bolloré, le millionnaire breton, qui a obtenu de manière opaque le monopole sur l'exploitation du port de Conakry, un des plus gros d'Afrique de l'Ouest, pour une durée de 25 ans. Bolloré, qui est soupçonné pour avoir obtenu ce contrat, d'avoir financé illégalement la campagne d'Alpha Condé. Alors on voit là toute l'hypocrisie de la politique aussi migratoire française, indirectement, hein, qui vise à endiguer à tout prix les flux humains venant d'Afrique de l'Ouest, alors que parallèlement, l'État français met en place une politique impérialiste ou soutient des multinationales qui ont une politique impérialiste pour défendre donc les intérêts de ces multinationales, notamment donc en maintenant au pouvoir des autocrates comme Condé. Alors l'État et les élites françaises criminalisent les migrants et les désignent comme profiteurs et dangers pour la société, alors que ce sont eux-mêmes qui les jettent sur les routes de la migration. À Lyon, hein, il y a de nombreux Guinéens qui sont arrivés ces dernières années. On a croisé de nombreux, par exemple, à l'Amphi-Z, et tous ont dû quitter le pays à cause des fortes inégalités ou pour fuir la répression politique ou encore les conflits ethniques attisés par le pouvoir en place pour se maintenir. La mécanique est simple aujourd'hui. On peut la résumer ainsi. Bolloré soutient Condé pour pouvoir exploiter les richesses du pays. Des Guinéens doivent fuir le pays et le régime répressif de Condé. Bolloré place sur sa chaîne CNews le propagandiste fasciste et anti-immigration Zemmour. La parole d'extrême droite se banalise en Europe et le Front National gagne en crédibilité. Du coup, la domination de la bourgeoisie française peut se renforcer en éliminant les problématiques sociales de l'agenda politique et en augmentant la sujétion des Africains et des exilés africains. Voilà, la boucle est bouclée.
Merci, on enchaîne avec le National et des nouvelles de Gilets jaunes mutilés.
Oui, puisque les centaines de personnes blessées et mutilées durant les manifestations Gilets jaunes existent toujours, même si le mouvement a beaucoup faibli depuis. Et le collectif Les Mutilés pour l'exemple continue de faire des manifestations. La dernière, c'était le 22 septembre à Bordeaux, où ils étaient environ 500. Parmi les mutilés, il y a au moins 24 éborgnés, pour se recenser en tout cas. Mais les mutilations et les blessures permanentes touchent aussi des mains explosées, des nez fracturés, des mâchoires arrachées ou encore certaines fractures crâniennes. Dans ces cas, les responsables, que ce soit des policiers, des gendarmes ou des CRS, ne sont pas poursuivis. Ils sont même rarement identifiés, grâce à la fois à la bonne vieille pratique qui consiste à ne pas porter son immatricule et à la complicité de l'IGPN qui semble avoir beaucoup de mal à enquêter sur ses collègues. Antoine Boudinet l'illustre bien. Il avait porté plainte pour mutilation volontaire contre le ministère de l'Intérieur et le préfet de la Gironde après qu'une grenade lacrymogène lui ait arraché la main à Bordeaux le 8 décembre dans une manifestation pour le climat à laquelle participaient des Gilets jaunes. Sa plainte avait été classée sans suite parce que le policier responsable était introuvable. Quand on sait que les policiers sont censés rendre un rapport pour chaque grenade utilisée, on a du mal à croire qu'il soit systématiquement impossible de savoir qui est responsable de chaque tir. Et c'est ce que semble avoir estimé le procureur général de Bordeaux qui vient de demander une nouvelle enquête. Et ce qui est très rare, c'est très rare qu'une deuxième enquête soit ouverte sur des violences policières une fois qu'elles ont été classées sans suite. Sans avoir trop d'espoir, c'est une affaire à suivre. A noter aussi l'intervention du collectif Désarmons-les, à la manifestation des syndicats policiers pour leurs conditions de travail du 2 octobre à Paris. Plusieurs militants s'y sont rendus avec des pancartes et des banderoles, rappelant aux policiers leur rôle dans les mutilations, avec notamment celle-ci, pression hiérarchique, pression sur la gâchette, la vraie violence est la vôtre. Devant ceux qui montraient des photos des blessés en criant « Que fait la police ? Ça crève les yeux !» plusieurs policiers en sont allés de leurs petites blagues, que ce soit de « Oh, t'as un truc dans l'œil là !» ou « Je vois pas bien ce qui a marqué » en se cachant un œil. Ou alors en venant narguer les militants qui se sont rapidement fait parquer dans un coin avec leurs photos par les gendarmes qui encadraient la manifestation. Révélant alors leur vrai visage, s'ils veulent de meilleures conditions de travail, c'est pour mieux nous casser la gueule. Et la vidéo est sur le YouTube de Désarmons-les si vous voulez le constater.
On enchaîne avec l'expulsion du foyer Barra à Paname.
Alors, la mise à la rue le mardi 29 octobre des 250 habitants et habitantes de la maison du foyer Barra à Montreuil à 4h du matin par les flics prolonge la série scandaleuse des expulsions des lieux d'habitation de sans-papiers à la veille de la trêve hivernale par l'État. Après le Marais à Caen, dont on a eu un invité la semaine dernière, un local de la Croix-Rouge squatté à Perpignan, deux appartements à Bordeaux, c'est donc au tour du bâtiment de l'AFPA, l'agence de formation professionnelle pour adultes, à Montreuil, d'être expulsé sur ordre de la préfecture. Alors, depuis sa construction en 1982, le foyer Barra est donc évacué pour la seconde fois, la première datant de novembre 2018, quand le maire communiste de Montreuil, Patrick Bessac, décide de déplacer les habitants de l'ancien foyer Barra délabré vers le bâtiment en meilleur état de l'AFPA. Mais derrière le vernis médiatique de cette réquisition par un maire bon samaritain, se joue surtout un coup de com' politique qui ne se soucie pas d'un relogement pérenne pour toutes et tous, avec ou sans papier. C'est ce que prouve la délégation de la gestion du lieu à Coalia. Cette association, créée en 1962 sous la houlette de Stéphane Hessel, est entre-temps devenue une agence de développement collaborant avec la politique sélective de relogement de l'État. En effet, cette dernière expulsion est le point d'aboutissement d'une logique de contrôle mise en place par Coalia depuis octobre et qui consistait d'abord à proposer un relogement uniquement aux personnes ayant des titres de séjour ou un contrat avec Coalia, puis à vider petit à petit le lieu en cessant d'assurer les repas et en condamnant l'accès aux toilettes. Cependant, la résistance n'a pas tardé à s'organiser. Décidant d'agir collectivement pour ne pas céder à la logique répressive et administrative du tri au cas par cas, les 250 habitants et habitantes chassés du foyer Barra, bientôt rejoints par les Gilets Noirs et la Chapelle Debout, ont installé un campement de lutte sur le trottoir en face du foyer, puis ont tenté d'occuper la tour administrative des services municipaux. Après 2 jours de silence, une proposition officieuse de relogement, sans garantie, est faite par la mairie qui ne trouve rien de mieux à mettre à disposition qu'un hangar insalubre où sont assis 90 lits pour loger 274 personnes avec 2 toilettes, sans douche ni salle de bain. Bon, à Lyon, ça nous rappelle vaguement quelque chose. Cette solution, qui n'en est évidemment pas une, inadaptée et précaire, reflète bien assez le mépris du maire Patrick Bessac qui, le 30 octobre, tweetait pourtant que face à l'inaction de l'État, Montreuil créait des conditions d'un hébergement digne. De toute évidence, Bessac doit avoir une définition très personnelle du mot « dignité ». Dans le communiqué datant d'aujourd'hui, les sans-papiers du foyer refusent catégoriquement d'être représentés par des délégués ou des intermédiaires qui négocieraient sans eux ou elles avec la mairie. De la même manière, ils rejettent la stratégie de pacification tentée par le ministre des Affaires étrangères malien et l'ambassadeur du Mali, raccompagnés sans concession vers la sortie lors de leur visite. À la place, les sans-papiers en lutte exigent la venue du maire en personne afin de discuter directement avec lui et préviennent que ce lundi, nous allons le chercher à la mairie puisqu'il ne veut pas venir nous voir. Pour rappel d'ailleurs, à partir du 13 novembre, à Dijon, aux Tanneries, a lieu une semaine anti-frontière avec les Gilets Noirs et la Chapelle Debout. Donc si vous avez l'occasion de la rejoindre, n'hésitez pas.
On enchaîne donc avec mon sujet à moi, donc que vous deviez faire une transition. non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors donc, un point sur Alexander Samuel. Je me permets de dire son nom puisqu'il a été diffusé assez massivement via Internet. Hein, a été interpellé pour la 3e fois la semaine dernière et placé en garde à vue, tout ça en un mois à Nice. Alors la première fois, c'était le 23 mars. Je précise qu'il fait partie, il a participé à certaines manifs des Gilets jaunes. Il a été arrêté pour non-dispersion suite à sommation. Très grave, il a eu un rappel à la loi. La deuxième fois, le 21 septembre à Paris, il est interpellé pour jet de trottinette. Il nie tout en bloc et de toute façon, il n'y a aucune preuve. Il est donc relâché sans aucune poursuite. Et la troisième interpellation, alors, eh bien, samedi de la semaine dernière, alors qu'il rejoignait une amie, ce monsieur est placé en garde à vue pendant 48 heures avec perquisition de ses ordinateurs et de toutes ses clés USB contenant l'essentiel de ses recherches. Mais sur quoi étaient ces recherches ? Eh bien, aidé par 3 médecins, ce dernier a effectué des prélèvements sanguins sur des manifestants qui avaient reçu du gaz lacrymogène afin de démontrer que les personnes en question étaient exposées à la présence de cyanure et en mesurer l'effet nocif sur la santé. Or, pour le moment, aucune instruction judiciaire n'a été portée à son encontre. Et cette troisième interpellation, alors, pourquoi ce jour-là, il rejoint une amie ? Le même jour et sur la même zone, Extinction Rébellion, dont on a déjà parlé, les Gilets jaunes que vous connaissez attaquent, s'en prennent à une Société Générale, hein, une banque de la Société Générale, pour dénoncer l'évasion fiscale et ses investissements dans les énergies fossiles. Les flics procèdent alors à leur interpellation. Il se trouve qu'Alexander Samuel s'approche, il est à côté pour voir de plus près et il se fait interpeller. 48 heures plus tard, après une garde à vue, il sort sans aucune charge, puisqu'effectivement sa version était la vraie version confirmée par plusieurs personnes. Mais alors, pourquoi lui avoir pris tout son matériel informatique sur cette troisième interpellation, avec toutes ses recherches sur le gaz lacrymogène qui pourrait peut-être révéler la présence de cyanure chez les manifestants qui subissent les gaz lacrymogènes dans les manifestations? On a évidemment tous un sérieux doute sur la question.
Pour finir le national, on va parler un peu de la réforme de l'assurance chômage.
Oui, poussant toujours plus loin son agenda néolibéral et les réformes structurelles à même de renforcer les logiques mortifères du capitalisme, notre cher gouvernement s'emploie avec sa nouvelle réforme de l'assurance chômage à attaquer au bulldozer le système né de la libération. Pardon. Alors, l'objectif de la réforme, occulté par les médias qui préfèrent actuellement polémiquer sur l'islam, est de faire des économies drastiques. Les nouvelles règles permettront d'économiser plus d'un milliard d'euros dès 2020, puis 2,2 milliards en 2021 et 2,5 milliards en 2022. En gros, la réforme va toucher de plein fouet les 2,6 millions de personnes en moyenne qui touchent de l'argent de Pôle emploi et en particulier les plus précaires. Alors le premier changement, et sûrement le plus significatif, hein, c'est le fait que les chômeurs devront travailler pendant 6 mois sur une période de 24 mois, et non plus 4 mois sur 28 mois comme aujourd'hui, pour avoir droit au chômage. Il faudra donc travailler un jour sur 4 pendant la période de référence, contre un jour sur 7 actuellement, et ce, dès le 1er novembre. Bon, en gros, du coup, ça vient d'être mis en place. Alors, 700 000 personnes vont être contraintes donc, d'accumuler les contrats courts avec des bas salaires, et pas seulement par choix, hein, comme essaie de le... Non, pardon. Excusez-moi. 700 000 personnes donc, qui sont actuellement contraintes d'accumuler des contrats courts avec des bas salaires, et pas seulement par choix, comme essaie de le faire croire le gouvernement, vont être directement touchées, hein, et en majorité, donc, des jeunes et des femmes. Autre mesure qui s'apparente à un véritable coup bas, hein, c'est la suppression du principe de rechargement des droits. Alors, depuis 2014, hein, il est prévu que si un chômeur travaille au moins 150 heures, donc environ un mois, pendant qu'il touche son allocation chômage, il allonge d'autant la période pendant laquelle il peut toucher de l'argent de Pôle emploi. Mais désormais, il faudra aligner 6 mois de salariat minimum pour ouvrir de nouveaux droits. Donc pour dire à quel point on se marche sur la tête, donc ça signifie que les demandeurs d'emploi qui n'ont pas épuisé leurs droits et qui sont loin des 6 mois de travail supplémentaires, désormais nécessaires pour prolonger les droits, ont tout intérêt à ne pas travailler, hein, puisqu'un seul jour de travail peut vous faire perdre vos allocations, enfin vos droits aux allocations. Ça sera ensuite début avril des nouvelles règles de calcul des allocations qui vont être mises en place. Hein. Au lieu d'être définies comme elles le sont depuis quand même 40 ans, à partir d'une moyenne des salaires touchés les jours travaillés par un salarié pendant un an, elles le seront à partir du revenu mensuel moyen, que la personne ait travaillé ou non, et sur une période pouvant aller jusqu'à 2 ans. Donc, selon l'UNEDIC, Ce nouveau mode de calcul, il va faire chuter les droits des 850 000 chômeurs de 22% en moyenne par rapport aux règles de calcul qui s'appliquaient jusqu'à présent. Donc la facture, elle va être particulièrement salée pour les 190 000 personnes qui auront travaillé moins de la moitié du temps de la nouvelle période de référence de 2 ans ou 3 ans pour les plus de 53 ans. Alors ils verront leur allocation mensuelle moyenne qui est déjà faible, hein, baisser de 50%. Passant de 868 euros à 431 euros en moyenne. Donc ça signifie que si vous avez travaillé avec beaucoup d'intermittence pour pouvoir cumuler 6 mois travaillés, en fait, votre allocation, elle va être ridicule. En fait, si vos 6 mois, ils ne s'alignent pas parfaitement et que vous avez beaucoup d'intermittence sur cette période de 2 ans, vous allez avoir une allocation qui vaut rien du tout. Et pour faire passer la pilule, le gouvernement il a décidé de doubler la période d'indemnisation. Donc ce qui en théorie va faire augmenter le montant total des allocations potentiellement touchables. Mais en fait c'est une belle arnaque, hein, puisque le versement s'arrête dès le premier jour travaillé, comme je vous le disais. Alors sachant que les décrets de janvier dernier, qu'avec les décrets de janvier dernier, le refus de 2 offres raisonnables d'emploi amène à une suppression de l'allocation pure et simple. Le foutage de gueule est total. S'y ajoute le fait que depuis ces décrets, le demandeur d'emploi ne peut plus rejeter une offre au motif que le salaire est bien inférieur à ce qu'il touchait lors de son dernier travail. Et pour terminer, hein, aujourd'hui, si un demandeur d'emploi retrouve un job moins payé que son travail antérieur, Pôle emploi continue à l'indemniser partiellement. Mais demain, ça ne sera plus possible dans la plupart des cas avec le changement du système de calcul. Donc voilà ce que met en place le gouvernement en ce moment, un nouveau jalon dans la guerre sociale menée contre les plus pauvres et les plus précaires. Et face à cela, hein, qu'une réaction possible, tous dans la rue le 17 et le 5 décembre.
On enchaîne au local avec des nouvelles de Vinci en Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, c'est Mediacité qui nous dévoile les dessous de la gestion des aéroports de la région, donc à savoir Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble et Chambéry. Donc ces quatre aéroports sont gérés par Vinci. On apprend donc dans cette enquête qu'en 3 ans, Vinci a ainsi empoché 44 millions de dividendes hein, grâce à ces quatre aéroports. C'est d'autant plus choquant quand on sait que ces aéroports sont largement subventionnés par l'argent public. Alors pour l'aéroport de Grenoble, par exemple, le département verse 1,8 million d'euros par an à Vinci. Et Vinci récupère 2,4 millions d'euros de dividendes, laissant un solde de 203,55 euros pour l'aéroport en 2017. Ça fait pas beaucoup. Alors du côté de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, dont la concession a été cédée en 2016 à Vinci, oui, hein, souvenez-vous, c'était une merveilleuse idée du ministre Macron. Du côté de Saint-Ex, donc, Vinci récupère des dividendes 2 à 3 fois supérieurs aux bénéfices. Donc Vinci siphonne en fait la trésorerie hein, de l'aéroport. Ajoutez à cela les économies de moyens, notamment sur le personnel, l'augmentation des recettes du parking, alors plus 9,3% quand même en 2018, et des loyers aussi payés par les aéroclubs. À cela, ajoutez aussi les aides de l'État, donc subventions, réduction de la taxe foncière. À Lyon, ça représente 4 millions de ristournes par an, ou le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Alors c'est quand même ironique, hein, c'est une aide qui est censée aider à l'embauche. Bon, à la fin, en tout cas, ça donne un beau pactole de 44 millions d'euros pour les actionnaires depuis 2016. Alors, on connaît bien l'amour de Vinci pour les aéroports, hein, de Notre-Dame-des-Landes à Lyon, en passant par Paris. Mais en fait, tout a bien commencé en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2004 avec Grenoble et Chambéry. Et on comprend assez bien cet amour vu la rentabilité de ces projets très, très grassement subventionnés. Les aéroports de Grenoble et Chambéry tournent pas vraiment à plein régime. En revanche, les subventions que l'État leur donne, elles tournent bien. Alors, ouais, en France, le secteur aérien, c'est chaque année 170 millions d'euros de subventions de l'État, des différentes collectivités. À cela, on peut aussi ajouter les facturations un peu douteuses entre les différentes filiales de Vinci pour les différents services qu'il y a à l'intérieur des aéroports. Et voilà, le tour est joué pour contenter tous les actionnaires. Alors encore un cadeau de Macron en 2016 qui continue aujourd'hui, et c'est Vinci qui se frotte bien les mains.
Alors Vinci se porte bien, et comment vont les fachos lyonnais?
Alors, les fachos lyonnais, cette dernière semaine...
Eh ben, on vous en parlait déjà ces derniers temps. Hein, le bastion social, ou du moins ce qu'il en reste, hein, s'est reformé dans deux groupuscules distincts. Hein, un premier donc, qui s'appelle Audace Lyon, qui fait dans la maraude sociale, etc., un peu sur le même plan que le bastion social. Et un autre groupuscule, Lyon Populaire, qui lui est plus dans une logique de milice, hein, patrouillant contre la délinquance, l'immigration, etc. Et ces dernières semaines, cette dernière semaine, il y a eu des évolutions.
Alors, ils sont venus 3 fois de suite, donc jeudi, vendredi, samedi, ou plutôt mercredi, jeudi, vendredi, hein, dans les pentes. Ils étaient une trentaine, ils se sont pris en photo comme ils ont l'habitude de faire sur leurs réseaux sociaux, où ils sont une trentaine cagoulés, donc ils seraient une grande partie effectivement de Lyon Populaire et certains de leurs copains hooligans du stade. Il est évident qu'ils se baladent pas à 30 pour rien. Hein. C'est l'objectif est d'impressionner et voire de faire des ratonnades s'ils croisent des homosexuels, des arabes, des noirs ou des gauchistes, hein, en gros, puisque c'est leur cible principale. On rappelle que le bastion social a été dissous par le gouvernement, mais que c'est pas par les dissolutions qu'on arrivera à anéantir ces groupuscules fascistes, hein, puisque même la semaine précédente, ils sont venus distribuer des tracts rue de la République, qui vont d'ailleurs très bien en lien avec les revendications du mouvement Carré Nord Presqu'île, hein, contre les incivilités, pour plus de sécurité. Et ils ont heureusement été pris en chasse par des jeunes qui étaient présents et qui ont contesté leur présence, et ils se sont fait pourchasser jusqu'au 5e arrondissement. Toujours est-il que ces dissolutions ne sont pas suffisantes, parce qu'à part créer un peu de désorganisation, on voit bien qu'ils se réorganisent, là en l'occurrence en deux groupes, Audace Lyon et Lyon Populaire.
Et maintenant, on va vous parler d'un cas de violence policière à Oullins.
Oui, très brièvement, un homme a été blessé ce dimanche par un tir de la police après une course-poursuite à Oullins. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, mais ça nous rappelle qu'ici aussi, la police tente toujours d'assassiner impunément. Déjà, mardi 29, une conductrice qui tentait d'échapper à un contrôle place des terreaux avait été la cible de tir. Elle avait été blessée à la jambe. Donc, on pense surtout aux victimes et plus que jamais, désarmons-les.
On enchaîne avec donc l'arrestation de colleuses anti-féminicides.
Oui, alors d'abord, vous le savez déjà, il y a un lundi sur deux à 18h30 un rassemblement place Louis Pradel pour dénoncer les féminicides. Et vous avez peut-être remarqué des collages sur les féminicides dans les rues de Lyon. Ces collages, il semble qu'il y en ait régulièrement. Ils sont simplement constitués de feuilles A4 blanches alignées pour former des textes comme « Elle le quitte, il la tue » ou « Féminicide, état coupable, justice complice ». Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont les tribunaux qui ont été recouverts et qui ont été spécialement ciblés, et pas seulement à Lyon puisqu'il s'agissait d'une opération nationale visant à dénoncer plus spécifiquement le rôle de la justice dans les féminicides. À Lyon, malheureusement, 4 militantes se sont faites arrêter. Bien que relâchées, elles vont être convoquées dans la semaine. Et je vais donc simplement vous lire les mots d'une des colleuses arrêtées, puisqu'elle parle très bien de ce qu'elle fait. Je la cite. « Alors que 70% des auteurs de féminicides avaient déjà commis des violences sur la victime, et que dans un cas sur trois, les pouvoirs publics en avaient été alertés, rien n'est fait pour mettre fin à ce massacre. Par son inaction, l'État est coupable. Par son inefficacité, la justice est complice. L'État ne peut plus détourner le regard. La justice ne peut plus dire qu'elle ne savait pas. » Sachez aussi que depuis samedi, nous en sommes à 128 féminicides recensés par compagnon ou ex. Pour le cas de samedi, c'était par son mari. Et la presse l'a qualifié de drame de la vieillesse, puisqu'il s'agissait d'un octogénaire, évitant soigneusement de mentionner qu'il s'agit d'un énième meurtre d'une femme par un homme. Voilà, et en espérant que pour ce coup-là, la justice, les colleuses, elle va les laisser tranquilles.
Et pour terminer cette émission, donc un reportage sur la manifestation de samedi pour les Kurdes, pour le Rojava.
Si tu veux en dire. Voilà.
Ouais, voilà.
Normalement, depuis la semaine dernière ou celui d'avant, il y avait un cessez-le-feu. Entre guillemets, mais si c'est le feu, mais l'armée turque fasciste, il attaque encore. Hein. Dans les zones de Rojava, il attaque encore avec les chars, il envoie des fusils. Autrement, à Rojava, il y a des villes. Il y a des villes qu'on a repris. Mais quand même, c'est difficile de reprendre. C'est pas des villes, excusez-moi, c'est des villages qu'on a repris. Des villages que l'État turc a pris. On a repris les villages. Mais je crois qu'on n'arrête pas d'ici. On va avancer. On va y avancer autant qu'on peut y avancer. Hier aussi, on a fait des manifs. Hier, c'était la Journée mondiale de Kobané, la victoire de Kobané qu'on a eue. La victoire internationale qu'on a gagnée. C'est pas juste les Kurdes qui l'ont gagné, bah, tout le monde qui était là, les camarades internationaux qui sont tombés ou qui résistaient là-bas. C'était cette victime-là. On a fait les fêtes avec Marche Flambeau. Aujourd'hui, c'est le jour de résistance de Rojava qu'on a fait aujourd'hui. Et j'espère, en résistance, ça ne va jamais finir.
En Turquie, à bas, régime fasciste. En Turquie, à bas, régime fasciste. En Turquie.
Il y avait à peu près 200-250 personnes qu'on pense. On n'est pas compté, mais ce qu'on pense. Hier, il n'y avait pas autant de policiers que ça, mais aujourd'hui, il y avait beaucoup, beaucoup de policiers. Cette fois, ils étaient plus nombreux qu'avant, plus nombreux qu'avant. Mais je sais pas.
C'est vraiment nombreux. Moi, j'ai compté presque 10 camions de CRS.
Tout à fait. C'est nombreux. Vraiment, vraiment. Bah, eux, entre guillemets, ils disaient qu'on est venu pour vous défendre, pour vous protéger. Mais non. La question, c'est pas nous protéger pour...
Erdogan, assassin, Europe complice.
Erdogan, assassin, Europe complice. Erdogan, assassin, Europe complice.
Très vite après le départ de la manif, on passe devant le restaurant Sigoftem, où un conflit éclate.
Le Köftem, lui, c'est un endroit fasciste. vraiment fasciste, fasciste. Il a fait signe de loup gris. Et les camarades, ils ont son attaque. En fait, signe de loup gris, en fait, les fascistes, ils disaient que nous, race, ils viennent d'eux un peu loup gris. Et leur symbole de loup gris, depuis, en fait, c'est pas aujourd'hui, depuis Genghis Khan, depuis ce moment, qu'eux, ils gardaient cette signe de loup gris.
Liberté pour un chaland, la prison pour un bogan. Liberté pour un chaland, la prison.
Ben moi je suis là en soutien de justement aux Kurdes, ce qui se passe justement, parce que c'est quand même une, ouais, les Turcs qui ont envahi quand même leur territoire et on ne peut pas être d'accord avec ça. Mais ça recommence toujours la même histoire. Une question de, du pétrole. Et c'est, parce que ces enjeux-là, c'est très important déjà pour les Américains, parce qu'ils ont même. Garder uniquement les puits de pétrole. Alors ils ont laissé faire les Turcs, forcément. Ça, c'est uniquement les gens qui veulent toujours, toujours s'accaparer des terres des autres.
La semaine prochaine, sûrement, on va faire une autre. Toutes les semaines, on va faire. Mais ça dépend des situations au Kurdistan. Par rapport à ça, ben, on va sortir dans la rue. Bon courage les gens qui sont aujourd'hui sous les balles qu'ils battent pour le Rojava ou pour le confédéralisme, pour le victoire ou pour tout ce qu'il a, tu vois, tout ce qui se passait là-bas. Et bon courage et avec cœur, on est tous avec.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi et sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et on fait l'agenda de la semaine puisque notre émission se termine.
Voilà, et donc jeudi, vous allez assister, vous allez aller boire un coup au bistrot de la Caisse de Solidarité à partir de 19h à l'atelier des Canulars au 91 rue Montesquieu. Vendredi, vous pouvez vous rendre à la conférence sur le féminisme et la lutte populaire en Argentine. C'est à 19h à la Plume Noire, 8 rue Diderot. Samedi, c'est la journée mondiale d'action pour un monde sans murs. Et à Lyon, il y a un rassemblement à 15h, place Carnot. Et le slogan, c'est de la Palestine au Mexique, tous les murs doivent tomber. Samedi aussi, à 15h30, il y a un débat à la Griffe, à la librairie La Griffe, autour du livre Le monde comme un projet Manhattan, qui parle du nucléaire. C'est 5 rue Sébastien Griffe. Et puis dimanche, il y a le cercle de lecture du Capital de Marx. C'est à 16h au local du Jusqu'ici.
Et pour tout le reste, vous pouvez toujours, bien sûr, aller tous les jours, plusieurs fois par jour, sur le site rebellion.info. Enfin, .fr, non, d'ailleurs.
Ouais, rebellion,
rebellion quoi.
Tu trouves.
.info, ouais, voilà.
Voilà.
Et sur ce, eh bien, nous vous souhaitons une bien belle soirée, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, ouais.
J'ai peur de finir à la morgue. Un briquet et la cigarette se grillent. Elle me brise la tête de vie. Si j'arrête de rire, c'est que je suis mi-fou, mi-triste. Ni cru, ni riche. J'irai passer un max avec un ni cru, ni riche. J'aime les petits loups qui disent. Mais ton petit coup de bip-bip. Les rip ou m'irritent. Mais mon petit coup tient vite. Bah, du scolaire, banal, pas bipolaire. Comme le papa, mais envers l'autorité brûlée en moi, une vive colère. Donc si j'opère au mic, envers et à travers les rimes, c'est pour t'en faire. C'est pour qu'en fait, respirer dans l'enfer des. À ce heure je marche avec les vrais, les autres j'en balance. Quitte à en payer les frais, je vous laisse une longueur d'avance. Sans enterrer les faits, je préfère me sentir délaissé. Me dire tant pis, tout est baisé qu'attendre. Que le compteur s'avance, rien dans les profondeurs d'absence. Notre sac d'anorceur et des potes sous qui rêvent de crever l'abcès, qui n'ont pas de sous. Alors tous les soirs c'est pas de sauce. Et les bières fortes qui m'escortent quand j'ai froid. Pas la 33 export, ni ceux qui tapent des tas de pauses. Même si en vrai chacun ses choix, mes vieux tout poussent. Ça joue les robins des bois, leurs textes sont un fort tout pour tous. Alors ne parlez pas, qu'on fait la guerre à l'état. Quand on prend la guerre à l'état, c'est qu'on est dans un sale état. Des bonbons de la kétamine, des bobos de la bétadine. Si t'es con, tu prends la zonçon pour des bécassines. Puis pour les vexatiles, mec, j'écris des textes à pile. S'enrouler des mécaniques, jouer les sexes à pile. Vu qu'ici ça rappe, autant que chez les decks ça tire. Check ma guise, et si tu te la braques, viens pas me faire la bise. Sache que j'en ai rien à battre, que toi et tes bêtes. Ça tire, y'a que quand je suis bien rabattre, que je sors tout ce que j'ai peine à dire. Ça fume des bêtes, ça tisse. Refait le monde sous amphétamine. Pour ces bâtards, ça frise d'être un fou qu'on enferme à vie. Mais